Et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la blessure de Karl-Anthony Towns chez les Wolves, des Celtics de Boston, immense favori pour remporter le titre, mais aussi de LeBron James qui a franchi la barre des 40 000 points en carrière et de la course au titre du meilleur défenseur de l'année. Pour m'accompagner, j'accueille Charlie. Salut Charlie.
Salut Josh, salut à tous.
Et Florent.
Bonjour Charles, bonjour Josh.
Salut Florent. Florent, on va commencer cette émission. Je vais commencer cette émission par, en te remerciant déjà de ta présence et de ta présence régulière dans le podcast.
Avec plaisir.
Et je tenais à souligner pour les auditeurs qui nous suivent sur, enfin qui me suivent sur Twitter, j'ai envoyé quelques remerciements l'autre jour parce que on a été cité, le podcast a été cité dans l'émission L'Addition, animé par Trash Talk avec Simon. Et voilà, et donc j'ai remercié à la va-vite les noms comme ça qui me venaient qui pendant que je tapais. Et j'ai omis le nom de Florent. Et voilà, et Florent, je voulais m'excuser publiquement, tu vois.
Mais je vois ça, mais c'est non, mais c'est t'as mis les gens, t'as nommé les gens que tu appréciais, puis il restait les autres, c'est tout. Mais...
Et j'ai pas nommé Tony Parker. J'ai pas nommé Tony Parker, tu vois.
Donc, oh, joli rattrapage.
Bam! Comme si j'avais pas préparé mon truc, tu crois quoi? J'ai appelé mes avocats. Hein.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut jamais remercier personne. C'est toujours le meilleur moyen d'en oublier la moitié.
Exactement.
Mais j'ai fait ça vraiment sur mon canapé. J'étais en train de parler avec ma fille. Je vois ça, je fais mon petit tweet rapido et ça m'a fait rire. Mais tout ça, ça a été fait avec beaucoup d'humour, Florent. Tu m'as fait beaucoup rire. Ton hashtag les autres, je m'en souviendrai toute ma vie.
Bon, bah. Alors, en tout cas, bravo d'avoir été cité, c'est mérité.
Oui, non, mais c'était très agréable. Mais voilà.
Déjà, je suis sans doute le moins bien payé de tous.
Ouais, déjà, ouais. Déjà, c'est Simon le mieux payé. T'as vu comment il a mis en avant le podcast? Tu crois que c'est gratuit tout ça? Non.
Bah,
c'est du placement de produit. Tout se paye aujourd'hui.
C'est pire qu'OnlyFans. Hein.
C'est pire qu'OnlyFans. On va parler un petit peu de l'actualité et on va se dépêcher parce qu'on a plein de sujets à traiter, notamment en raison de la blessure de Karl-Anthony Towns, le pauvre. J'aimerais commencer cependant en soulignant la fin de la saison pour Ben Simmons du côté de Brooklyn. Il aura joué 15 matchs cette saison, 57 matchs au total sur les trois dernières saisons, 65 si on est généreux et qu'on compte la pré-saison. Voilà, on va être cool quand même.
Bon, on est vraiment généreux là.
Il a 27 ans, il a encore une saison sur son contrat, plus de 40 millions de dollars. Contrat qu'il avait signé quand il était à Philadelphie. Il a un pincement de nerf dans le dos. Je pense que les Nets aujourd'hui sont littéralement bloqués avec lui. Et je ne sais absolument pas quel va être son prochain contrat, voire même s'il en aura un en NBA. Je ne sais pas ce que vous en pensez et je voulais avoir votre opinion sur la fin de saison de Ben Simmons et sur la suite de sa carrière. Charlie, qu'est-ce que tu en penses ?
Ouais, pas grand chose, c'est assez terrible, c'est assez terrible pour lui, c'est triste. Avant même de parler effectivement d'un prochain contrat, moi ce que j'espère déjà c'est qu'il va pouvoir réussir un jour à vivre sans douleur et sans blessure et éventuellement réintégrer la NBA. Je pense qu'aujourd'hui c'est surtout ça le plus important pour lui. Tu l'as dit, depuis les playoffs 2021 conclus en drama avec Philadelphie, il a joué même pas 60 matchs, c'est terrible. On a toujours su qu'il avait des fragilités, mais là on parle de quelqu'un qui vit avec des douleurs au quotidien. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est qu'il réussisse à se libérer de tout ça et à retrouver, sans parler de la plénitude de ses moyens physiques, au moins une vie sans douleur.
Florent, qu'est-ce que t'en dis de Ben Simmons?
C'est triste, avant tout triste. On va lui souhaiter, oui, bon rétablissement. Que veux-tu? C'est dommage parce que c'est quand même un beau joueur. Il a montré de belles choses, mais il est voilà. Ça, il a outre les problèmes un petit peu de, on va dire de gérer la pression, de gérer tout ça. Il a en plus un corps qui lui fait faux bond. C'est pas évident. Il est en contrat jusqu'en 2025 pour les Nets. Un contrat assez conséquent en plus. Donc c'est aussi un problème pour les Nets d'avoir un joueur comme ça qui ne joue pas. Mais il y a plus grand chose à dire. On espère que ça aille mieux. C'est un tunnel dont on ne voit pas le bout. Donc c'est surtout avant tout une histoire triste.
Ça peut être un contrat expirant pour les Nets l'année prochaine. Moi, je suis son agent à Ben Simmons. Je me fais quand même du souci sur la capacité de trouver une autre équipe à l'avenir en NBA, clairement, quoi. Je pense que la question s'est jamais autant posée pour Ben Simmons qu'aujourd'hui.
Oui, et puis au-delà de l'aspect physique, il y a l'aspect psychologique.
Tout à fait.
Tu vois, c'est assez terrible ce qu'il vit. Je pense que l'expression un tunnel est tout à fait juste, et pour lui, ça doit être vraiment assez terrible.
Surtout que je sais pas si tu te souviens, Charles, mais on avait une émission là au moment où il a joué Ben Simmons, il a eu quelques bons matchs avec les Nets, et je t'avais envoyé un message, je t'avais dit tiens, je parlerai bien de Ben Simmons. Et puis finalement, j'avais rétro-pédalé parce que je m'étais dit, tiens, on va peut-être attendre un petit peu, voir s'il y a quelques matchs supplémentaires quand même à se mettre sous la dent avant de pouvoir discuter de son jeu et de son impact dans cette équipe des Nets. Et finalement, bah voilà, ça s'est pas passé comme prévu, mais voilà. Il a eu quelques matchs sympas cette saison.
Ouais, bah moi,
poignée.
Il me semble même qu'avant la reprise de la saison, on avait fait un podcast sur les joueurs sur lesquels on allait garder un œil cette saison, et il me semble bien que moi j'avais pris Ben Simmons, notamment aussi parce que pour moi c'était un peu une saison charnière pour lui. Et voilà, ça a pas duré longtemps, quoi.
Ouais. Prompt rétablissement à Ben Simmons, et comme tu dis, Charlie, c'est ce genre de problème de nerfs dans le dos, ça peut vite être très très problématique, quoi. Dans la vie d'un athlète et dans ta vie tout court.
Ouais. Rookie de l'année, hein, pas l'oublier.
Ouais.
Il avait été rookie. Donc c'est voilà, c'était quand même un bel avenir qui était prévisible. Il avait fait des bonnes choses à Philly, mais voilà, le corps n'a pas suivi.
Il avait fait des très bonnes choses à Philly. Mmh. Excellent même. On va parler de la grosse news qui est tombée là ces derniers jours. Karl Anthony Towns qui va se faire opérer, ou qui s'est fait, je sais même pas s'il s'est déjà fait opérer ou pas. Ils vont vite parfois et là je sais pas. Mais il doit se faire opérer d'une déchirure du ménisque de son genou gauche. Selon Shams de The Athletic, il devrait être de retour tôt. Alors je cite, hein, tôt dans les playoffs à l'Ouest. Ce qui peut dire tout et n'importe quoi. C'est une façon de pas dire une date. Mais moi ce que je comprends, c'est potentiellement au premier tour ou à la fin du premier tour, on verra bien. Les Wolves sont actuellement premiers de la conférence Ouest, au coude à coude avec le Thunder et les Nuggets. Le calendrier qui se profile à l'horizon n'est pas simple. Il leur reste 19 matchs à jouer et pas contre des petites équipes. Ils ont 3 matchs sur leur calendrier face à Denver, qui clairement en ce moment même en train de faire la course pour essayer de choper cette première place. Ils ont 2 matchs contre Phoenix, qui joue pour éviter le play-in. 1 contre les Clippers, qui essayent de monter au classement. 2 matchs contre les Lakers, pareil, classement, play-in, tout ça. Charlie, quelle a été ta réaction quand tu as entendu parler de cette blessure de Towns?
Bah, c'est un coup dur énorme, c'est assez terrible. Il y a 3 semaines, on a fait un podcast où on se projetait un peu sur les playoffs, et c'est vrai que déjà à l'époque, on disait que pour des équipes comme le Thunder ou les Wolves, le premier tour pourrait être terrible quand on voit les équipes qui sont actuellement dans le play-in, puisqu'il y a quand même une vraie possibilité pour ces équipes-là de se retrouver face à des Lakers, Mavs, Warriors. Donc en plus, faire face à cette situation-là sans un joueur aussi important que Karl Anthony Towns, c'est absolument terrible. Alors moi, je veux bien qu'on se rassure en se disant il sera peut-être de retour sur le premier tour. Ok, mais dans quel état est-ce qu'il sera de retour? On sait très bien que revenir d'une blessure, qui plus est en playoff, c'est toujours très compliqué. C'est quelque chose qu'on a constaté souvent, ne serait-ce que la saison dernière avec Embiid. Bon, franchement, je suis assez triste pour cette équipe. Je trouve que c'est vraiment... En fait, c'est le danger. C'est quelque chose... Chaque saison, on assiste à un truc comme ça. On est dans cette période de l'année critique où à chaque match, on croise les doigts en espérant qu'il n'y ait pas de blessés parmi les playoffables. On sait très bien que comme chaque saison, il y aura son lot de forfaits, son lot de blessures. Ah, voilà, le souci, c'est que pour une équipe comme les Wolves, faire tourner et faire souffler leurs stars pour éviter les pépins physiques, bah déjà, c'est jamais une science exacte, et ensuite, c'est pas toujours simple. Tu l'as dit, ils ont un calendrier à venir qui va être compliqué. Aujourd'hui, c'est très très difficile de se projeter sur la fin de saison des Wolves, quoi.
C'est horrible si t'es fan des Wolves, parce que cette équipe n'a pas gagné de série de playoffs depuis 2004. Ça fait quand même excessivement longtemps, ça fait 20 ans, t'imagines? Et là, ils sont premiers de la conférence, t'as l'impression qu'ils ont enfin l'opportunité de compter, voire de clairement de jouer le titre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de parler de cette équipe aujourd'hui, c'est potentiellement un des contenders, même si on peut trouver, chipoter, dire que il y a ci, il y a ça qui va pas, il y a peut-être des faiblesses à tel ou tel poste et ainsi de suite. Ok, très bien, je l'entends. Mais quand si t'es fan des Bulls, c'est une année absolument génialissime à vivre actuellement.
Ouais, mais surtout.
Et là, ça s'écroule, quoi.
Bah, surtout que les deux saisons précédentes se sont achevées par une défaite au premier tour des playoffs. Donc forcément, là, c'est un peu l'année où tu te disais, bon bah voilà, là c'est l'année où on passe un cap.
Ah, c'est horrible.
Ouais, c'est horrible.
Florent, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
C'est sûr que niveau timing, c'est pas une très très bonne nouvelle. En plus, comme tu l'as dit, dans 4 semaines, il sera réexaminé. Ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a pas du tout de timeline précise. C'est pas non plus très rassurant. Et selon l'état médical, ça peut durer un peu plus. Ça peut faire un début de... Alors, c'est dans 40 jours les playoffs, donc dans 4 semaines. Est-ce qu'il sera hâte pour le début des playoffs? Est-ce qu'il sera hâte pour le milieu de la première série, pour éventuellement la deuxième série, s'il y en a une, les demi-finales de conf? C'est très compliqué, ça tombe à un très mauvais moment. Et puis, ils vont sans doute et très probablement chuter un petit peu au classement, ça c'est une évidence. D'autant qu'entre le premier et le quatrième, il y a 4 matchs. Donc, il y a quasiment rien, donc ils pourraient vite dégringoler à la quatrième, voire cinquième place. C'est sûr que c'est pas non plus la même chose, c'est pas le même adversaire qu'ils auront, ce sera sans doute plus compliqué. Donc oui, c'est une très mauvaise nouvelle parce que au-delà du scoring, c'est aussi un joueur qui participe beaucoup au playmaking, à la façon de fluidifier un petit peu l'attaque, donc ça pose problème. Et même si y a un banc susceptible de faire le boulot, tu remplaces pas Karl Anthony Towns comme ça, donc c'est sûr que c'est très problématique pour la fin de saison régulière. Faut juste espérer pour eux qu'ils reviennent le plus rapidement possible. Et comment il reviendra? Est-ce qu'il retrouvera le rythme tout de suite ou pas? Ça aussi, c'est une question qu'on a le droit de se poser.
L'apport de Karl Anthony Towns est absolument critique pour les Wolves. Il n'y a pas d'autre façon de voir la chose. C'est un All-Star. Quand il est sur le terrain, ils ont une attaque probante qui est à l'équivalent de 15e rang de la ligue, ce qui n'est pas ouf, mais ce qui leur suffit étant donné qu'ils ont une défense absolument dominante. Et quand il n'est pas là, quand il n'est pas sur le terrain pour les Wolves, ils ont une des pires, enfin, ils ont la pire attaque, une attaque qui serait similaire à la pire attaque de toute la ligue. Donc c'est absolument dommageable son absence. Bah ceux oui. qui pensent que Nasrid peut éventuellement prendre sa place dans le 5, alors il y a très peu de. Il y a un échantillon très très court là-dessus. Nasrid a joué avec le 5 majeur, avec les autres joueurs du 5 majeur, donc Conley, Edwards, Jaden McDaniels et Rudy Gobert, pour un total de 67 minutes cette saison. Quand il était sur le terrain, ils avaient une défense irréelle, c'est-à-dire qu'ils aient, leur defensive rating, il est à 82,3, autant te dire que c'est n'importe quoi, pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, les Wolves ont la meilleure défense de la ligue avec un ratio à 108,1 points. Donc autant te dire que c'est n'importe quoi. Par contre, quand il est sur le terrain, Nasrid à la place de Towns, leur attaque ne décolle absolument pas. Pareil, c'est une des pires attaques. Donc l'échantillon est excessivement petit, donc ces chiffres que je viens de donner n'indiquent pas grand-chose si ce n'est que Nasrid ne sera pas du tout le remplaçant et que Nasrid dans le 5 majeur pour remplacer Karl Anthony Towns, c'est aussi Nasrid qui ne sort pas du banc. Et donc les Wolves vont se retrouver avec un déficit de rotation. Et pendant les playoffs, ça va être compliqué. Et c'était une des forces de cette équipe. C'était le fait qu'ils avaient un effectif justement capable de s'adapter à plusieurs configurations, à plusieurs adversaires, en fonction de ce qui pose problème à l'instant T, quoi. Et là, leur marge de manœuvre est beaucoup plus réduite.
Bah, l'avantage de Nasrid, c'est que c'est un joueur que tu peux faire rentrer dans le 5, il a le niveau pour, il fera les minutes pour. Ça, c'est la bonne nouvelle, on va dire. Mais comme tu l'as dit, il ne pourra pas compenser l'absence de Towns. Il n'a pas ce talent-là. Et tu l'as aussi souligné, c'est que dès qu'il va sortir pour souffler ou quand il y aura des problèmes de faute, c'est là où va y avoir un gros gap parce que c'est toujours le jeu un peu Le remplaçant du remplaçant, forcément, il n'est pas fait pour se retrouver dans la lumière du jour, en quelque sorte. Et là, c'est ce qui va être le cas. Que vont-ils faire? Qui vont-ils aligner quand Nasrid sera sur le banc? C'est là où ces minutes-là, là, elles vont leur coûter très cher. Parce que ils auront un problème évident dans leur effectif. Et puis, Nasrid, bon, est capable de faire des bonnes choses offensivement, c'est vrai, mais c'est pas non plus un serial scorer. Nasrid plus Gobert, tu te retrouves avec deux joueurs qui ont des petites limites offensives. Alors heureusement, ils ont Edwards notamment qui peut faire des très belles choses à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'ils vont être un petit peu affaiblis dans l'attaque. Et comme tout est une question de balance, même si ils ont une très bonne défense, faut pas non plus qu'ils chutent trop en attaque, sinon ils n'y arriveront plus. Donc oui, c'est sûr qu'ils vont avoir des problèmes. Va falloir trouver une rotation viable, surtout quand Nazrid sera sur le banc. Ça, c'est la vraie question, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont adapter comme rotation quand Nazrid pourra pas être dans le 5?
Charlie, comment tu vois les Chris Finch réussir à pallier l'absence de Towns?
Bah, y a pas de solution miracle, enfin, parce que au-delà du rôle de Towns dans le jeu que vous avez déjà évoqué, Towns c'est 22 points, 8 rebonds par match, il y a absolument personne dans l'effectif aujourd'hui des Wolves qui est capable d'avoir la même production statistique pour le remplacer, ça c'est une certitude. Donc dans tous les cas, ça sera un effort collectif, c'est clair. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver ces solutions-là. Je vois pas qui, à moins effectivement que les autres leaders, que soit Anthony Edwards, Rudy Gobert, etc., réussissent à hausser leur niveau de jeu et à augmenter leur production statistique. Je vois pas trop aujourd'hui quelles sont. Enfin, il y a pas de solution pour compenser vraiment cette absence. Il faut pas croire que tout à coup quelqu'un va sortir du lot et se mettre.
Mais c'est sûr.
Ça n'existera pas.
C'est sûr.
C'est éventuellement. Oui, vas-y, Flo. Anderson en 4, mais c'est un peu juste.
Bah, c'est ce qui s'est passé sur le match, sur le dernier match là contre oui. C'était contre Indiana, oui, c'est ça. Bah, ça a pas été extraordinaire non plus. Ça, effectivement, il a un profil qui peut être intéressant. Il va forcément prendre plus de temps de jeu, plus de responsabilités. Pour autant, on peut pas s'attendre de lui à ce qu'il remplace la production de Karl-Anthony Towns.
Et comme l'a dit Flo, ce qui va être compliqué pour les Wolves aujourd'hui, c'est ils ont très peu de temps. Ils ont moins de 20 matchs. Pour régler cette histoire de rotation et trouver quelque chose de viable en attendant, en croisant les doigts, pour que Karl-Anthony Towns revienne et revienne à peu près correctement. Je veux dire, c'est voilà la façon dont. Dans quel état il va revenir, est-ce qu'il ne sera pas complètement hors forme au moment de son retour? Ça, c'est une autre question.
Bah oui.
Mais là, il va falloir trouver potentiellement des solutions. Alors, que ça n'ait pas marché avec Kyle Anderson tout de suite. Ça, c'est sûr qu'ils sont obligés, en très peu de temps, de changer leurs habitudes, de changer quelque chose qui fonctionnait. S'ils débutent les playoffs bon an mal an avec cet effectif, j'ai peur, moi, personnellement, qu'on voit Edwards se cramer totalement sur le terrain, en fait. À trop vouloir en faire, parce que sa responsabilité offensive va être décuplé, ils vont avoir besoin que quelqu'un nourrisse la marque, et à part lui dans cette équipe, ça va être compliqué. Enfin, je vois pas qui est en mesure de clairement pointer pointer assez pour compenser l'absence de Towns, quoi. Et je vois, enfin, j'ai peur de voir Anthony Edwards se cramer totalement.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça, et c'est vrai que, enfin, tu vois, en plus. S'ils parviennent à conserver, à rester assez haut, ce dont je doute, mais enfin, imagine un scénario où au premier tour ils se retrouvent face à une équipe qui sort du play-in, qui est déjà en rythme, le couteau entre les dents. Enfin, tu vois, genre le retour de Karl-Anthony Towns, moi ça me fait peur, et j'espère qu'ils vont pas précipiter son retour, parce que là, pour le coup, ça pourrait être une vraie catastrophe.
Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que là, c'est pas comme s'ils allaient pas tomber au premier tour face à un adversaire qui potentiellement va être excessivement problématique dès le départ, quoi. Il y aura pas un premier tour un peu cajolant, histoire de se mettre en rythme.
Ils peuvent
quoi.
Se taper
ça
les
va pas
Suns
être ça
les
du
Pélicans,
tout, en fait.
Hein. C'est pas
oui,
évident.
Voilà. Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, ça va être un sérieux client immédiatement. Et les Wolves, déjà, enfin, c'est pas que j'avais pas confiance en eux, mais ils avaient quelques limitations, notamment offensives. Qui me faisait dire bon bah ça va pas être simple quoi. Il suffit que t'aies 2-3 matchs où t'as une panne offensive et bah t'es sorti en playoff clairement quoi. Et là la question elle est multipliée par 10 en fait. Il y a le site américain la Sportsline qui a projeté les Wolves sur leurs 20 derniers matchs, donc ils projettent une un bilan de 11 victoires, 9 défaites. C'était 13 victoires, 7 défaites si Towns avait été en pleine santé. Les chances des Wolves d'avancer au premier tour, pour l'instant, ça n'a pas tant que ça a bougé, mais je sais pas. C'est vraiment pas de chance pour Minnesota, quoi. C'est, je suis vraiment dégoûté pour eux, quoi.
Ouais, c'est pas de chance, mais c'est un truc qu'on, chaque année, on y a le droit, quoi. On le sait, on est vraiment dans cette période de l'année là où la moindre blessure peut mettre fin à aux espoirs de toute une équipe qui bosse depuis des mois et des mois pour arriver à ses fins. On est vraiment dans cette période de l'année charnière où vraiment tous les rêves peuvent être brisés en une torsion de genou, quoi.
On a choisi de pas en parler parce qu'on a, on va peut-être manquer de temps, mais les Cavaliers, très rapidement, hein, les Cavaliers avec Mobley, Evan Mobley, c'est exactement la même chose. Le mec se fait la cheville. Les Cavaliers, c'était l'équipe qui mettait des gifles à tout le monde pendant plusieurs semaines depuis le début de l'année 2024. Et tout d'un coup, tu te dis, mais voilà, il y a tout qui semble se fragiliser d'un seul coup.
Oui, puis on peut parler de New York aussi. Enfin, rappelle-toi de ce qu'on disait de New York à la deadline où il y avait des médias qui se posaient la question de savoir s'ils intégraient le cercle des favoris ou des prétendants au titre. Et aujourd'hui, on en est à compter les mecs qui sont à l'infirmerie, quoi.
Oui, et à se demander qui va pouvoir revenir en bon état, quoi.
Ouais, et à croiser les doigts pour que Brunson se crame pas complètement. Enfin,
alors que ce sont des équipes qui ont absolument la nécessité d'être à plein régime pour fonctionner, et je pense que les Wolves rentrent totalement dans cette catégorie. Je sais pas, Flo, ce que t'en penses. Tu penses que les Wolves ont une... Tu donnes quelle probabilité de chance aux Wolves de passer un premier tour sans Towns dans l'effectif? T'es plutôt confiant, moyennement confiant, pas du tout confiant?
Bien sûr, ça dépend toujours du match-up, mais de leur adversaire, mais sans Towns, ça va être quand même assez compliqué, parce que, comme je l'ai dit, c'est les Pelicans, les Suns, peut-être les Mavericks. Ça risque d'être très compliqué, honnêtement, sans Towns, parce que c'est toute une mécanique, c'est pas juste un joueur, c'est déjà ce qu'il apporte lui, mais c'est ce qu'il apporte individuellement, mais aussi ce qu'il apporte collectivement. C'est très difficile de remplacer ce qu'il fait, parce qu'il a un profil en plus assez particulier. Ça peut clairement être une déception, parce qu'ils peuvent se faire dégager au premier tour, ou s'embarquer, s'ils ratent ne serait-ce que le début de la première série, ils peuvent s'embarquer dans une série où ils sont déjà menés 0-2, et on sait que c'est très compliqué. Donc non, c'est très très préjudiciable. On sait qu'à l'Ouest, il va quand même y avoir assez peu de tours tranquilles. Et si en plus, il te manque l'un de tes leaders, ça va être très compliqué. Je suis assez inquiet, en effet. Il faudra, en fait, la réponse, on l'aura dans 4 semaines, quand il sera réévalué, parce que là, on aura déjà une date peut-être un peu plus précise. Et on saura si déjà c'est play-off ou il rate le début des play-offs. Si honnêtement il ne participe pas au premier tour des play-offs, je pense qu'on peut voir entre guillemets un upset. Ce sera un upset parce que ce sera une équipe mieux classée. Mais sans Towns, en fait, les Wolves ne sont pas si forts. Et c'est normal, hein. C'est ton numéro 2 de ton équipe. Toutes les équipes, si elles perdent leur numéro 2, sont fortement affaiblies. Et ce sera le cas pour les Wolves. Donc non, ça peut être des playoffs qui se terminent très rapidement pour eux. Alors que voilà, ils sont actuellement premiers et qui sont flamboyants, mais c'est un grain de sable qui détruit toute une machine. Parce que voilà, en playoffs, il y a des ajustements qui vont être compliqués. Ils vont cibler peut-être un peu plus Nasrid, même si défensivement c'est un bon joueur. Hein. Faut pas non plus croire que c'est un piètre joueur, mais une fois de plus, je le redis, quand Nasrid sera sur le banc, qui va le remplacer? Ça va créer des minutes où ils vont être clairement en difficulté et leur adversaire en profitera pour les mettre la tête sous l'eau. Non, je suis très pessimiste pour en playoff. S'il ne revient pas, et dans quel état il reviendra?
Oui. On a observé, je pense, dans les prochaines semaines, comme tu le dis, c'est là où on va pouvoir se faire une bonne idée. L'allocation des minutes, les nouvelles rotations mises en place par Chris Finch, je pense que ce sera le plus important. Voir comment Anthony Edwards réagit aussi offensivement. Est-ce qu'il prend plus de tirs? Est-ce qu'il a plus de déchets? Voir qui essaye d'élever son niveau de jeu offensif. McDaniel, j'ai envie de croire qu'il est capable de prendre plus de responsabilités. pas du tout au niveau de compenser Towns, hein, je me fais pas d'illusion là-dessus, mais voir comment ils se répartissent la tâche et comment ils serrent les dents jusqu'au début des playoffs. On verra ça. On va parler des Celtics qui avant leur défaite in extremis face à Cleveland le 6 mars dernier affichaient une série de 11 victoires consécutives. Et ils ne se contentaient pas de gagner les matchs, les Celtics. Ils annihilaient littéralement leurs adversaires avec un différentiel de points jamais vu dans l'histoire de la NBA sur une telle série de victoires. Il y avait une différence de points de plus 243 points. Personne n'a jamais fait ça. Ils possèdent actuellement la meilleure attaque de la Ligue, la deuxième meilleure défense. Ce que deux équipes avant elles avaient réussi à faire au 21e siècle. Les Warriors de 2015 et les Warriors de 2017. Dans les deux cas, ça s'est terminé sur un titre. Sur la saison, ils possèdent un des différentiels de points les plus élevés de l'histoire, juste derrière quatre équipes, toutes titrées à la fin de la saison, hein, les Lakers de 1972, les Bucks de 1971, les Bulls de 1996 et les Warriors de 2017. Ils sont absolument létaux à trois points, plus grand volume de tentatives, plus grand volume de tirs primés, quatrième meilleur pourcentage de réussite de toute la NBA à largement plus de 36,5%. C'est un 38,6% de réussite la dernière fois que j'ai regardé. J'ai l'impression qu'on est un peu face à une équipe. Ça me fait un peu penser aux Warriors de 2015 où tous les indicateurs de Boston nous montrent que cette équipe est absolument dominante. Ils font une saison régulière où ils marchent sur tout le monde. Ça fait des semaines qu'on le répète. Et là, ils ont enchaîné deux défaites, donc ça paraît peut-être moins concret pour tout le monde, parce qu'ils ont perdu contre Cleveland et Denver. Mais cette équipe devrait nous paraître inévitable, et pourtant il y a encore pas mal de gens, j'ai l'impression, qui doutent en Boston. Charlie, qu'est-ce que tu penses de Boston? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la série de 11 victoires consécutives qu'ils ont eues, t'as fait changer ton d'avis sur Boston ou pas? Qu'est-ce que t'en penses à l'instant présent de cette équipe?
Non, ça n'a pas fait changer d'avis, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué. Cette équipe, elle réunit tous les éléments qu'on cherche chez un candidat au titre: l'attaque, la défense, la profondeur d'effectifs, les prestations sur le parquet, avec, tu l'as dit, des victoires extrêmement convaincantes. Ils ont annihilé quasiment tout le monde. Matsula, qui était en début de saison la pièce éventuellement sur laquelle on pouvait avoir des doutes, est convaincant dans ce qu'il met en place. Visiblement, son groupe le suit sans état d'âme. Donc, non, cette série de victoires m'a pas fait changer d'avis, dans le sens où j'ai aucun doute sur le fait que Boston, la saison régulière, elle pourrait durer 200 matchs. Pendant 200 matchs, ils écraseraient tout le monde. C'est pas le problème. Enfin, presque tout le monde, parce que tu l'as dit, il y a quand même quelques petites défaites par-ci par-là. Mais en fait, moi, j'attends plus rien d'eux, entre guillemets, en saison régulière. C'est en play-off que je peux avoir des réponses. On l'a dit, il y a quelques semaines, quand on a évoqué les candidats au titre, on avait mis en avant un des éléments qui pouvait poser question chez Boston. C'était la perte d'un profil comme Smart, un peu gardien du temple, capable de sonner la révolte, de gueuler un coup quand il le faut, parce qu'on le sait, cette équipe, elle peut faire preuve d'une certaine nonchalance, avoir des passages à vide, faire preuve de suffisance. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé dans le match contre les Cavs, qui perdent dans le quatrième quart-temps après avoir compté plus de 20 points d'avance. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, cette équipe, elle a tellement d'armes, elle est tellement dominante que c'est, entre guillemets, normal d'aller chercher la petite bête, d'aller au fond des choses. Et d'ailleurs, à l'issue de cette rencontre, Jaylen Brown a fait une interview où il a été extrêmement franc. Il a évoqué lui-même ce problème de mentalité, a expliqué qu'à être trop dans le confort, ils avaient un peu perdu cette combativité, qu'ils avaient perdu en discipline. Et ça, au plus haut niveau, ça se paye cash. Et c'est vrai que moi, c'est là-dessus que je vais les attendre en play-off, parce que face à des équipes qui au contraire brillent par l'intensité folle qu'ils sont capables de mettre, on peut citer Miami, parce que c'est un peu le running gag que je vois souvent sur les réseaux sociaux, tout ça pour se faire sortir par Jimmy Butler en demi ou en finale de conférence. Bon, j'ai la seule chose que j'attends de Boston, c'est les playoffs. J'attends plus rien d'eux en saison régulière. Tout ce que t'as dit est vrai. C'est une équipe incroyable, extrêmement dominante, extrêmement forte. Elle réunit tous les ingrédients d'un champion. Mais maintenant, il faut le prouver.
Flo, ton opinion sur Boston?
C'est vrai qu'ils sont très forts. Ils sont très impressionnants, surtout en saison régulière et surtout cette saison. Pour autant, est-ce que c'est le favori? Non. Alors, cette saison, c'est compliqué de mettre un favori, mais si je devais en mettre un, je ne mettrais pas les Celtics quand même.
Tu mettrais qui, tiens? Parce que si Boston, c'est pas ton favori pour le titre, c'est qui?
Maintiens qu'un back-to-back Nuggets.
Ouais.
Parce que, alors,
okay.
Parce que justement.
Mais c'est hyper intéressant. Dis-moi pourquoi tu parce que
Non, vas-y.
si tu excuse-moi 2 secondes mais
C'est pour faire de
juste
l'audience, je dis ça.
pour orienter la conversation, c'est très intéressant parce que après cette série de 11 victoires, on a eu un nombre incalculable d'articles qui nous disaient à quel point Boston est incroyable et ainsi de suite, ce qui est absolument vrai. Quand tu regardes tous ces chiffres-là, c'est impossible de regarder tout ça en se disant mon Dieu, mais s'ils se croûtent encore, ce serait quelque part affligeant parce que ils cochent absolument toutes les cases pour gagner quoi. Ils ont absolument tous les éléments en main pour le remporter. Et comme dit Charles, moi je partage tout à fait son sentiment. Quelque part, la saison régulière de Boston, je m'en contrefiche. J'ai juste envie de les voir en playoff et qu'ils parviennent à faire ce qu'ils veulent faire en playoff. Et j'ai des doutes. Je continue à avoir des
Est-ce qu'ils
doutes.
sont forts, très forts? Oui. Plus forts que la saison dernière? Oui, notamment parce qu'ils ont parfaitement réussi la greffe autour de Porzingis, on y reviendra sans doute plus tard. Mais toi, par exemple, si tu prends le bilan des Celtics contre les quatre premières équipes de l'Ouest, ils ont un bilan négatif. Ouais. Ils ont.
Ah ouais?
Si tu prends
J'ai pas
les
regardé, ça
Wolves,
donne quoi
les
alors?
Nuggets, les Clippers et le Thunder, eh ben ils ont un bilan négatif face à ces quatre équipes. Et en plus, je crois qu'ils doivent avoir une victoire contre Denver, mais je crois que c'est le premier match, l'opener de.
Non, ils ont perdu
Les
les deux
deux,
matchs contre Denver
ils ont
cette
pas joué
saison.
trois fois. Attends.
Les deux, ils ont perdu à
Ah oui, c'est vrai,
Boston.
oui.
Non, ils jouent que 2 fois
Enfin bref, peu importe, mais ils ont un bilan négatif contre ces équipes. Donc ce qui est quand même un petit. Donc on peut se poser, voilà, face aux forts, ils ont quand même des. Oui, c'est vrai, mais c'est l'opener. Mais ça compte quand même. Mais c'est vrai, ils ont perdu contre Minnesota, ils ont perdu contre les Clippers, etc. Donc. Face aux quatre plus gros de l'Ouest, le bilan est déjà moins réjouissant. Donc on peut peut-être se dire, tiens, il y a peut-être des choses qui se posent. Ensuite, c'est une arme à 3 points extraordinaire. C'est pas que leur force, ils défendent aussi extrêmement bien, mais ils sont très très forts. Le problème, je trouve, c'est que dans toutes leurs défaites, systématiquement, ils ont des stats à 3 points qui sont pas bonnes. Et en 2023, je parle que de cette saison, hein, donc pas 2023 de la saison 2022-2023. Dès qu'ils sont en dessous de 30%, ils perdent. Et en 2024, dès qu'ils sont en dessous de 35%, ils perdent le match à 3 points. Et le problème, c'est que ça
D'accord.
peut arriver de ne pas être bon à 3 points, bien sûr. Mais quand Boston n'a pas cette stratégie de très bien jouer le 3 points, je trouve qu'il manque un peu de plan B, notamment parce que moi je trouve quand même que ce qui leur manque cruellement, c'est un joueur capable d'attaquer le cercle. En drive, ils n'ont pas de joueur capable de faire ça.
Jalen Brown est assez compétent là-dedans, mais sa fréquence dans
Il le fait pas.
pénétration n'est pas énorme. Ouais.
Mais oui, c'est ça.
Ouais.
Même si sur le papier, il a les compétences pour les faire, il ne le
Je
fait
serais moins
pas.
enthousiaste que
Tout à
vous
fait.
sur les drives et la conduite de balle de Brown. Je trouve quand même que c'est pas. Ouais, mais il y a même sa main
La
droite, je suis
fameuse
pas
main
si
gauche de
confiant que ça,
Brown.
mais il le fait pas dans ça. Tatum, à la limite, est efficace, mais il le fait très peu. C'est pas dans son jeu. Porzingis, c'est pareil. Porzingis, c'est pas dans son jeu et il n'est pas non plus une grande efficacité. Ils n'ont pas ce profil-là dans l'équipe. Et je pense que c'est ce qui leur manque énormément parce que si la machine s'enraye, le plan B, il n'est pas si évident que ça pour les Celtics. Et j'ai peur qu'en playoff, ça puisse leur poser problème parce qu'il y a peut-être des séries où ils seront obligés d'aller un peu plus dans la raquette. Ils auront peut-être du mal à le faire s'il y a un soir où ça rentre pas à longue distance. Je suis pas sûr qu'ils aient les ressources basket pures pour s'en sortir. Pour ça que ça m'inquiète un petit peu. Alors, c'est de l'inquiétude sur une équipe, je suis d'accord avec vous, hein. Là, si on regarde vite fait, même si on va en profondeur, c'est une équipe qui est très forte. Mais il y a quand même des petits avertissements. Voilà, comme je le dis, face au top 4 Ouest, ils ont un bilan négatif. Je crois que c'est 2 victoires et ça doit être 5 défaites. Donc, il y a quand même des petits éléments qui montrent que face au gros, c'est un peu plus compliqué quand même.
Dans le match face à Denver la nuit dernière, c'est un peu ce que je me suis dit en fin de match. Quand je voyais Boston, la façon dont Boston et Denver ont joué cette fin de rencontre est assez représentative de ce qui me fait du doute que je ressens quand je vois Boston. Alors, encore faut-il être capable de se mesurer à Boston déjà au premier abord déjà. C'est ce qui est pas, il y a pas très très peu d'équipes qui sont capables de les regarder droit dans les yeux. Mais si t'es capable de le faire, quand je voyais Denver qui se qui se reposait sur son jeu à deux avec Jokic et Murray, et surtout avec Jokic de haut panier quelque part, et Jokic qui essayait toujours de trouver soit d'attirer une prise à deux, soit de trouver la passe à faire pour ressortir le ballon, ou faire une passe lobée à Aaron Gordon. Et d'ailleurs, quel duo absolument divin que Gordon et Jokic, quoi. C'est absolument n'importe quoi. Mais je suis plus rassuré d'avoir un joueur comme Jokic qui est capable d'aller chercher des points près du cercle, de provoquer des fautes et de ressortir des ballons pour des joueurs ouverts, que de voir une équipe comme Boston qui essaye de prendre le premier tir à trois points ouvert disponible. Et j'ai l'impression que Boston, franchement, ils étaient à deux doigts de remonter dans cette fin de match. Et ils ont compté 10 points de retard vraiment, on était tout proche de la fin, ils étaient à 10 longueurs de retard. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me rassure pas dans le jeu de Boston, quand il faut aller gagner le match, je me dis, si tu t'en remets à ton adresse au tir, que ce soit mi-distance ou 3 points, j'ai du mal avec ça, en fait. Charlie, qu'est-ce que t'en penses?
Mais en fait, c'est un peu le revers de la médaille de cette saison si réussie, c'est qu'ils ont été tellement peu mis en difficulté cette saison, ils ont jamais connu de période où il fallait aller chercher des solutions. Alors, est-ce qu'ils sauront le faire s'ils sont confrontés à une série qui se passe mal? Bon, j'ai tendance à dire qu'ils ont les armes pour sur le papier, mais c'est pas forcément suffisant s'ils l'ont jamais fait de la saison. Tu peux difficilement improviser quelque chose comme ça en cours de playoff. Et puis le passif de cette équipe fait forcément qu'on se demande comment elle réagira si les choses ne tournent pas dans leur sens. Donc,
il y a énormément de défaites de Boston qui se sont jouées cette saison dans les toutes dernières minutes. C'est assez dingue, je sais plus le nombre, mais vous pouvez compter chez vous. Regardez le nombre de défaites de Boston qui se sont jouées à moins de 5 points. C'est assez incroyable. En fait, ils pourraient avoir un bilan encore plus outrageusement dominant qu'ils ne l'ont aujourd'hui, quoi.
Ouais.
C'est terrible, en fait.
Ouais, mais puis voilà, c'est vrai que si tu veux, ces dernières années, on a tellement mis en avant les équipes en play-off qui sont capables de s'adapter. Ça a toujours, ouais. C'est tellement une donnée qui est fondamentale aujourd'hui dans les séries de play-off que, ben forcément, on est un peu inquiet de voir ça. Alors, bon, est-ce qu'ils sauront trouver les armes pour s'il le faut? Je sais pas. J'ai du mal à me projeter là-dessus. J'ai du mal à y croire, pour être très franc. Ça paraît dingue, hein, de dire ça. Moi, c'est vrai que Boston, j'ai toujours eu des doutes malgré cette saison incroyable. Alors, peut-être aussi que c'est pour ça que Mazzulla a tendance à beaucoup responsabiliser ses joueurs. On sait que, par exemple, sur les fins de match tendus, il a un peu cette tendance à ne pas prendre de temps mort, c'est pas le premier à faire ça. Hein. Steve Kerr l'a aussi beaucoup fait ces dernières années, par exemple, parfois même en playoff.
Phil Jackson, ça lui arrivait aussi beaucoup.
Tout à fait. Est-ce que ça peut finir par payer? Je sais pas. J'avoue que moi, pour le coup, je préférerais justement que lui prenne des temps morts pour tenter de mettre en place des choses un peu différentes, plutôt que de laisser ses joueurs dans ce confort-là, surtout quand on connaît les tendances de ses joueurs. Parce que, attention, Boston, c'est quand même une équipe qui se repose énormément sur son talent individuel. Ça fait assez peu de passes décisives. Bon, je sais pas. Moi, j'ai toujours des doutes. Et je pense que là, il pourrait terminer la saison régulière invaincu. Que ça, enfin, tu vois, en ne perdant pas un match sur la fin de saison, que je continuerai à avoir ces doutes-là.
En fait, le 5 majeur de Boston me semble tellement parfait que j'ai du mal à imaginer que ça se passe mal pour eux. Et en même temps, j'arrive pas à m'empêcher d'avoir un doute. Vas-y, Florent, qu'est-ce que tu allais dire?
Je suis d'accord avec vous, mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont un plan A qui est d'une efficacité redoutable, mais, et on l'avait déjà vu la saison dernière en play-off, dès qu'ils sont dans un match où il faut un peu s'ajuster, où ce qui se passe logiquement bien ne fonctionne pas, ils ont beaucoup de difficultés à trouver des ressources, à s'adapter. Le terme adapté était très très bien choisi. Ils ont ce défaut-là. Alors c'est sûr que leur plan leur permet de gagner 90% des matchs. Il en reste 10. Et le problème, c'est qu'en général, ces 10%-là, les matchs compliqués, les matchs où il faut s'ajuster, les matchs où ça arrive, t'es pas forcément dedans, ils arrivent généralement en play-off et généralement en fin de play-off. Donc c'est pour ça que voilà, ça peut être inquiétant si ça se passe mal. Ils peuvent avoir du mal à trouver la petite ressource, le petit facteur X qui leur permettent de contourner l'obstacle et de gagner. J'ai un peu plus de doutes sur cette faculté-là à avoir. Et c'est pour ça que j'ai certains doutes. Après, je serais très étonné qu'ils perdent au premier tour. Non. Et je pense qu'ils termineront encore la saison comme ils le sont actuellement, comme un rouleau compresseur. Mais voilà, quand ça ne va pas, c'est là où on attend les grandes équipes, celles qui gagnent. Et je vois pas forcément l'effectif, enfin les joueurs, je les vois pas forcément avoir quel joueur peut avoir ce rôle un peu de facteur X. Et comme tu l'as dit, le coach à la fin, certes, alors des Phil Jackson, il prenait pas de temps mort, ça faisait partie d'une tactique. Mazzola, s'il prend pas de temps mort, est-ce que c'est une tactique ou un peu un aveu d'échec? Là aussi, il y a une petite interrogation.
Alors moi j'aimerais quand même souligner le fait que Mazzulla cette saison fait d'excellents ajustements. Il a proposé des ajustements tactiques dans plein de matchs dernièrement face aux Mavericks par exemple, qu'ont essayé de mettre Porzingis dans les pick and roll en permanence, et il a ajusté ça en mettant Porzingis sur Josh Green. Puis après sur PJ Washington, ce qui a créé des problèmes d'ajustement pour le coup du côté de Dallas, Mazzulla arrive à trouver énormément de solutions.
Mais sans varier énormément l'attaque, en
Sans
fait.
varier énormément l'attaque peut-être, mais on peut, je sais pas, moi j'arrive pas à dire que moi Mazzulla, quand je vois ce qu'il propose sur un terrain, je le trouve excellent, personnellement. Je trouve absolument excellent dans ce qu'il propose, dans sa façon de préparer son équipe pour les adversaires en place. J'ai jamais de doute. Il essaye toujours possession, enfin pas possession après possession, mais carton après carton. Tu vois que quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, il n'est pas là à insister lourdement sur la chose, quoi. C'était peut-être vrai l'an dernier, c'est plus du tout le cas pour moi cette année. Maintenant, il faudra le voir en playoff, où les playoffs sont encore à un autre niveau d'ajustement. C'est-à-dire qu'en playoff, tu dois ajuster face à la même équipe qui va te scouter et te pousser dans tes retranchements et va te contraindre à trouver des solutions et des contre-solutions et de contre-contre-solutions aux problèmes qui sont posés. Du moins si tu as un bon coach, notamment si tu as un mec comme Eric Spoelstra en face de toi, par exemple, qui est vraiment, c'est le nom le plus facile à sortir de toute la clique.
Oui, mais c'est bien de le rappeler.
Il risque
Mais
de
c'est
se
bien de le
croiser.
rappeler. Mais
Bah
oui,
ouais.
mais ce que je veux dire par là, c'est que Mazzulla, je peux pas, je peux pas, pour moi, il a fait énormément de progrès. Il a fait preuve d'énormément d'une science dans ses ajustements, et je trouve que son coaching staff est tout à fait au diapason de ce qu'il propose cette saison. Moi, je trouve qu'il y a une vraie montée en gamme et de niveau côté Mazzulla, quoi. Clairement, je trouve que cette équipe de Boston est exemplaire sur le terrain. Enfin, j'ai dans l'exécution. On parlait de facteur X tout à l'heure. Jrue Holiday, pour moi, est le facteur X ultime côté Celtics. Il peut défendre sur n'importe qui. Mazzulla est allé le faire défendre sur des pivots. Il l'a défendu sur Joel Embiid dans des rencontres face à Philadelphie. C'est complètement dingue comment il utilise son équipe. Mais c'est absolument génial en vrai. Parce qu'à chaque fois, ça déstabilise les équipes adverses. Et c'est exactement ce qu'il cherche à faire. Il est absolument génial, ce coach. Je suis désolé, tout d'un coup, je deviens un fanboy, mais il est très, très fort. Et
Oui,
je
mais c'est
trouve
pas la convaincre.
qu'il utilise très bien cet effectif. Derrick White, Jrue Holiday, Tatum, Brown, Porzingis, pour moi, ça tient tellement la route. Il y a quasiment aucune équipe qui est capable de matcher ce 5 majeur.
Oui, je
Et
suis d'accord.
on a vu Miami. Miami, ils ont fait, je sais plus quel match. J'aurais dû noter le match qu'ils ont fait face à Miami, où on se dit, ah bah tiens, on va voir si Miami vont pas leur remettre dans les dents un petit peu. La façon dont il a utilisé Porzingis pour contrer l'influence d'Adebayo dans la raquette, c'était juste génialissime, quoi.
Ouais, mais...
C'était juste brillantissime.
Oui, mais ça reste le Miami de saison régulière.
Oui, aussi. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Maintenant, on a envie de voir ça en playoff. Clairement.
Ben oui, on a envie de voir ça en playoff parce qu'en fait, enfin, si tu veux, cette équipe de Boston, déjà la saison dernière, elle était extrêmement forte. Déjà la saison dernière, on s'extasiait devant l'effectif, devant les qualités qu'il y avait dans ce groupe, etc., etc. En fait, on les attend pas. Ça paraît bête à dire, hein, parce qu'on est en train de parler d'une équipe de basket, mais moi je ne les attends pas sur de l'exécution de basket à proprement parler. Aujourd'hui, j'attends de voir comment cette équipe elle saura réagir dans les moments difficiles, comment cette équipe elle saura s'adapter à un vrai grain de sable qui vient enrayer la machine, comment cette équipe elle saura réagir quand il y a cette espèce de petite attitude qui se met en place où t'as un peu l'impression que les mecs, bon bah ils en ont un peu rien à secouer de ce qui se passe sur le parquet. Comment est-ce que Tatum saura trouver des solutions s'il y a un match où il ne met rien dedans? Tu vois, par
Ouais.
exemple, on parlait des Warriors un peu plus tôt. Tu comparais leurs chiffres à ceux des Warriors. Moi, j'ai toujours vu, par exemple, un Steph Curry quand ça rentrait pas. Eh ben,
Tout à
Curry, il
fait.
n'avait aucun problème à varier son jeu, à aller mettre des layups histoire de se rassurer. Ben, moi, j'ai besoin de voir Tatum faire ça, par exemple.
Et complètement, ouais. Et on a aussi pu voir les Warriors parfois forcer sur leur tir extérieur, et quand ça rentrait pas, bah ils s'en sortaient difficilement, quoi.
Tout à fait.
Voire pas du tout. Je veux dire, tout à l'heure en off, on parlait justement des équipes qui avaient les double digits de différentiel de points. Donc, tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais, c'est que habituellement, ces équipes-là remportent le titre. C'est excessivement rare qu'une équipe qui domine à ce point ses adversaires en saison régulière les résultats ne se traduisent pas ensuite en play-off. Et tu m'as avancé l'argument des Warriors en 2016.
Oui,
Et
une équipe extrêmement dominante également.
voilà, et c'est tout à fait vrai. C'est un bon exemple. Et Boston, je me demande où il se situe aujourd'hui, mais pour moi, ça va être une grosse, grosse, grosse désillusion si ils se font éliminer avant même les finales NBA, quoi.
Ah mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais pour moi, ça reste un scénario qui
Bien
est
plus que l'an
envisageable.
dernier. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Mais j'ai du mal à voir ça. Moi, pour moi, le plus gros, au final, point noir de cette équipe, et je le dis et je le redis, je le dis depuis qu'ils ont fait ce transfert pour faire venir Porzingis, le plus gros doute que j'ai, c'est de voir ce Kristaps et à un autre niveau, Jrue Holiday aussi, qui heureusement, je touche du bois, il a été épargné par les blessures, et je suis tellement en adoration devant ce joueur que je désire absolument pas que ça lui arrive, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais Porzingis qui passe 4 tours de playoff, il faut que je le voie de mes yeux, quoi. Clairement, je pour moi, c'est le plus gros obstacle de Boston. Parce que quand tu vois le rôle de Porzingis cette saison dans cette équipe, quand tu vois l'influence qu'il a dans leurs résultats, le rôle ultra important qu'il a dans cet effectif, alors qu'il débarque à peine, tu vois. Comment tout tourne beaucoup autour de son jeu et sa façon dont Mazzulla l'utilise pour débloquer plein de situations, que ce soit pour Brown, pour Tatum, pour tous ces gens-là, White et ainsi de suite. Porzingis, il est central dans tout ce que font Boston, quoi. Et c'est ça qui me fait un peu peur. C'est-à-dire que derrière, il y a Horford, il y a Tillman, qui décidément est une extraordinairement bonne pioche pour les Celtics. Mais Porzingis, si tu perds ce gars-là et notamment sa capacité à pull-up à 3 points, bah,
Ça change énormément de
ça
choses.
change, ça change toute la géométrie du terrain, quoi.
Ouais.
Florent, qu'en
Non, mais
penses
la
quoi, toi?
greffe de Porzingis, elle est excellente. Il est très bien utilisé dans un rôle de finisseur. Il est remarquable. Il a une efficacité, il a des taux d'efficacité dans toutes ses.
En post-up,
Oui, ce
c'est
qui n'était pas
n'importe quoi
forcément, en
comme il
plus,
est fort.
forcément son atout premier dans sa carrière. Mais de toute façon,
Tout à fait.
dans cette saison, en termes d'efficacité, quelles que soient ses stats, il est très très haut dans toutes les catégories. Parce que voilà, il bénéficie totalement du système qu'il utilise en tant que finisseur et il se régale, et il fait des dégâts contre les adversaires. Et les match-up, il les réussit aussi parce que souvent, il lui donne des match-up à son avantage et il s'en sort très très bien. Mais là-dessus, c'est sûr qu'ils s'en servent. Ils l'ont parfaitement adapté. Il est dans un rôle qui lui sied très bien. Après, bon, le problème de la santé, ça, malheureusement, c'est totalement aléatoire. C'est sûr que sans lui, ce sera plus compliqué. Ça, c'est une évidence. Pour l'instant, cette saison, ça a l'air de très bien aller. Donc, on va garder cet optimisme, hein. Il n'y a pas de raison, on ne lui souhaite pas de mal. Mais ouais, c'est sûr qu'il a un énorme apport. Et justement, lui et Horford sont peut-être les joueurs aussi qui sont capables d'apporter un peu plus comment dire, de jeux différents que les Tatum, les Brown et même tous les autres, les Holiday et compagnie. Parce qu'ils peuvent aller un peu plus, ils peuvent se frotter un peu plus dans la raquette. Le problème, c'est que Horford a quand même un certain âge Et que Porzingis, il est très bon dans ce rôle de troisième homme offensif. Mais tu vas pas non plus commencer à lui donner les clés du camion dans une série de playoffs. Donc, de toute façon, même s'il est très bien utilisé, il ne sera pas la solution finale pour les Celtics.
Je repense beaucoup à ce qu'a dit Charles tout à l'heure. Je trouve ça vraiment, ça, moi, c'est peut-être ça qui me marque le plus avec cette équipe. C'est sa capacité de jouer un peu, enfin, de faire un peu, comment cette équipe va réagir quand elle va se faire rentrer dedans, quoi. Et je sais pas si j'ai confiance en Porzingis et tous ces joueurs-là. Enfin, j'ai besoin de les voir. J'ai besoin de les voir dans cette circonstance-là. Quand ils vont être vraiment secoués, s'ils le sont, hein. C'est
Ils
pas
vont l'être.
dit, c'est ouais, peut-être, je sais pas, on
Ah, c'est
verra.
sûr, ils vont
Mais
l'être.
s'ils le sont, comment ils vont réagir? Et c'est là où, est-ce que ça tient du fantasme de ma part, tu vois, le fantasme de dire, ah ouais, machin, du romal, tout ça, tout ça. À quel point je me fais un film dans ma tête, ou à quel point ça va se concrétiser au moment où ils vont se prendre un uppercut dans la mâchoire, et on va se dire, tiens, comment vont réagir les Celtics, quoi. Et l'an dernier, quand Miami leur a mis la tête dans le lavabo, eh ben ils étaient pas contents, quoi. Ça s'est pas bien passé pour eux.
Non, non, c'est clair. C'est bon, moi, c'est vraiment le gros point. Alors après, effectivement, y a aussi l'aspect physique que vous avez évoqué. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est aléatoire. Maintenant, Boston a réussi quand même. S'il y a bien un bénéfice à cette saison régulière aussi dominante, c'est que là, on est à un mois et une semaine des playoffs. C'est le 20, il me semble, le 20 avril. Aujourd'hui, Boston est dans une situation où si demain Kristaps, s'il a la moindre douleur à l'entraînement, s'il n'y a
C'est
aucun
vrai.
problème à le foutre au frigo pour 3 ou 4 matchs. C'est un luxe que aujourd'hui, assez peu
Complètement.
d'équipes, eux, ont dans la ligue.
Ils ont magnifiquement géré ses minutes, magnifiquement géré sa présence sur le terrain en fonction des adversaires et tout, franchement.
Non, mais pour le moment, c'est un sans faute, hein. Pour le
Cette
moment, c'est un sans
franchise
faute.
des Celtics est quand même sacrément
On a des attentes
bien
très très
conduite, quoi.
hautes parce qu'ils sont très très bons, hein, on est très exigeants. C'est sûr que là on titille un petit peu cette équipe, mais elle fait une saison remarquable, hein, ça c'est une évidence. Mais du coup,
C'est
on
clair.
attend d'eux beaucoup, on attend d'eux peut-être le titre, en tout cas ils font partie des favoris. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye de voir dans le détail si il n'y a pas un petit caillou dans la chaussure. Mais globalement, pour l'instant, le marathon se passe très bien.
À moi, pour moi, par contre, que les choses soient claires, s'ils gagnent pas le titre, c'est un échec.
Ah, c'est un échec
C'est
monstrueux.
un échec énorme, hein, pour moi. Hein. Même s'ils perdent en finale contre les Nuggets en 7 matchs, c'est un échec pour moi.
Ah mais complètement.
Et je suis pas du tout convaincu que la saison prochaine, ils réussissent une telle saison.
En fait, c'est ça qui est assez dingue avec cette équipe, c'est que elle se hisse par ses résultats et par toutes ces statistiques qu'elle engrange là depuis le début de la saison. Elle s'est hissée à un niveau où t'as que des équipes iconiques, t'as que des équipes légendaires qui sont là, quoi. Les Lakers de Chamberlain, les Bulls de Jordan, les Warriors de Curry, tout ça. C'est le gratin du gratin de la NBA, quoi.
Ouais, en fait, elle s'est hissée dans une sphère où on n'attend que le titre, sauf que ben c'est pas aussi simple que ça en fait.
Ouais. Et où, si tu te viandes, eh ben, ça va être des discours sans fin sur, ah mon Dieu, vous êtes à la masse, quoi.
Oh, j'ai hâte du retour des débats sur le duo Tatum-Brown. Oh, j'ai hâte.
On verra
D'autant
ça.
qu'ils ont quand
On
même
va
une
enchaîner.
petite aussi,
Dis, vite dit.
Horford et Holiday sont pas non plus d'une toute première jeunesse, hein. Donc la fenêtre est
Ah,
pas
mais pour
si
moi,
grande
ça.
non
Mais
plus.
même. Mais, alors, tu peux parler de l'âge des joueurs, Florent. On peut aussi parler de leur salary cap, qui sera absolument intenable au-delà de la saison prochaine. À moins que les proprios acceptent de signer des chèques impossibles à la NBA. Pourquoi pas, hein? Les mecs sont des milliardaires, donc je pense qu'ils ont les moyens
Après, il y a aussi
financiers,
avec le nouveau
mais
CBA,
faut le
sous les
vouloir.
contraintes, si tu fais sauter la taxe, tu payes, mais en plus, au niveau de la draft et tout ça, tu as des sanctions. Donc, c'est un
Ah oui, non, bah après,
choix,
t'es
voilà.
bloqué,
Sur l'avenir, c'est un choix qui
t'es
peut
bloqué sur toi.
hypothéquer beaucoup
Ouais,
de
ouais.
choses.
Non, et puis le propriétaire, moi, je veux bien qu'il soit d'accord pour payer n'importe quelle amende, mais bon, je pense qu'il a quand même un peu envie de gagner des titres. Et le problème, c'est que tu payes des amendes pour une équipe qui gagne des titres. Si tu gagnes pas le titre cette saison, est-ce que vraiment t'as envie de payer, 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 quoi?
Ah mais totalement, totalement, on verra bien. Mais effectivement, il y a plein de paramètres à prendre en compte, l'âge, les salaires et tout ça. Cette équipe, cette saison, est taillée pour aller au titre, clairement. Ils étaient finalistes en 2022, je le rappelle. L'an dernier, tu peux dire, c'est une désillusion, tout ça, Miami, parcours totalement singulier, extraordinaire et hors du... Voilà, enfin, ça ne se repassera plus comme ça. On verra, on verra. Mais en tout cas, voilà, les Celtics, logiquement, sur le papier, ça devrait marcher jusqu'au titre, quoi. On va parler du trophée du meilleur défenseur de l'année. Selon la quasi-totalité, voire la totalité des sites sportifs, en tout cas, j'ai pas vu de site de paris sportifs, tu sais, les bookmakers, tout ça, là, qui disent que Rudy Gobert n'est pas l'immense favori pour remporter le titre cette saison. Ce sera son quatrième en carrière. Il est à la tête de la meilleure défense de la ligue. Il est de loin le joueur avec le meilleur defensive rating de toute la ligue, defensive rating individuel. Parmi les poursuivants, on trouve des noms comme Anthony Davis, Jarrett Allen ou encore Bam Adebayo. Il y a également deux rookies qui sont cités, Chet Holmgren bien évidemment, et surtout Victor Wembanyama. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que ces derniers temps, dans de nombreux podcasts que j'écoute, de nombreux articles que je lis, je vois souvent les journalistes être déchirés parce qu'ils se disent, en fait, on se retrouve, on est incapable de... Enfin, c'est pas possible de donner le titre à Wembanyama parce qu'il est dans une équipe qui est trop faible. Mais ce qu'il fait individuellement sur un terrain, et notamment l'impact qu'il a sur les Spurs défensivement, c'est totalement irréel. Et je sais pas si des auditeurs qui écoutent ça se disent, ah oh, mon Dieu, il parle encore de Victor Wembanyama, mais...
Ah bah habituez-vous, hein.
C'est pas de ma faute si ce gars-là a décidé de finir la saison en trombe. Et je voulais un petit peu revenir sur le fait que, d'une, Rudy Gobert, très probablement, il n'y a pas trop de débat en fait sur le titre de défenseur de l'année. Et j'ai envie de le crier au micro. Et j'ai aussi envie de dire qu'on est peut-être devant son successeur attitré, Victor Wembanyama. Mais en fait, Victor Wembanyama, quand je lis les trucs, tout le monde dit, mais il va révolutionner ce trophée, en fait. Ça va être potentiellement le défenseur le plus dominant de la ligue. Et je voulais avoir votre opinion là-dessus. Charlie, qu'est-ce que t'en penses?
Alors moi d'abord, je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai écouté Gilbert Arenas et il a dit que.
Arrête!
Pardon.
What?
Pardon. Non non
Le même Gilbert
évidemment.
Arenas qui dit que l'NBA est devenue plus soft pour contenter les Européens.
Ah c'est incroyable. Non mais il
Ça
a eu
m'a
une
fait...
série de déclarations
Et qu'on
récemment.
lui...
Pardon, j'étais obligé d'en parler. Ça m'a.
Non, on pourra faire un podcast spécialement sur les hot takes de Gilbert Arenas. Ça
Non
pourrait
non,
être...
ça me fait trop mal au
Mais
cœur.
si, cet été, on fera ça, vas-y. Peut-être, on
Non, écoute,
verra. Ouais.
à l'avenir, oui, à condition que le niveau défensif global des Spurs augmente, parce qu'en l'état, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Draymond Green qui a récemment expliqué que le défenseur de l'année ne peut pas être issu d'une équipe qui est parmi les pires défenses de la ligue. Ça là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais oui, après, oui, à titre individuel, il a absolument tout pour le gagner chaque saison. Ce qui est marquant avec lui, au-delà de l'aspect visuel et physique, c'est la vitesse à laquelle il s'est adapté. Il a compris le jeu NBA, c'est tellement rare que ça soit aussi flagrant avec lui d'un match à l'autre, on voit l'évolution. Alors évidemment, ce qui marque au premier abord, c'est les contres. On parle d'un rookie qui a déjà envoyé 10 contres sur un match il y a quelques semaines face aux Raptors, en s'offrant au passage un joli petit triple-double, mais il n'y a pas que ça en fait. Dans la capacité de récupérer le ballon après un contre, à lire les situations, à aider au bon moment, il a absolument tout sur le papier pour être le défenseur de l'année chaque saison. Maintenant, il faut voir comment sa carrière va évoluer. D'abord, il y a le basique absolu, c'est les soucis physiques. Est-ce qu'il va être préservé? Comment est-ce qu'il va appréhender la chose aussi? Parce que des mecs dont on s'est dit en début de carrière qu'ils pouvaient être défenseurs de l'année chaque saison, il y en a eu quelques-uns, mais tous n'ont pas eu la volonté pour. On va pas faire la liste des mecs capables de défendre le plomb, mais qui le font que quand ils le veulent vraiment. Mais il y en a quelques-uns, surtout parmi les superstars de la ligue. Et Wembanyama, c'est ça, en fait. Wembanyama, on parle d'un mec qui est appelé à devenir LA superstar de la ligue. Donc, si
Oui,
certaines
avec des responsabilités offensives colossales.
Voilà, si certaines personnes trouvent qu'on parle trop de Wembanyama, bon courage à vous les gars, parce que ça va être le cas pour les 15 prochaines saisons. Donc la question sur Wembanyama, en fait, elle est là. Il a tout pour le faire. Maintenant, est-ce qu'il aura la volonté de le faire? Est-ce qu'il aura les capacités physiques de le faire? Parce que quand tu défends le plomb pendant toute la saison, sur tous les matchs, c'est pas non plus facile derrière de, en plus, être le meilleur scoreur de ton équipe. en plus, être le franchise player de ton équipe en plus, être le candidat au MVP chaque saison. C'est un peu tout ça la question. Mais sur le papier, évidemment, Wembanyama, on dirait que le mec, il a été créé pour défendre.
C'est complètement fou. Florent, qu'est-ce que t'en penses de cette course du défenseur de l'année et de la place que Wembanyama tient dans cette course ?
On s'attendait à ce qu'il soit bon, mais même avec la plus grande des prudences, il surpasse quand même nos attentes. Hein. C'est impressionnant. Et depuis le mois de février, il a fait un mois de février absolument dingue. Il a encore franchi. Enfin, oui, il a rajouté une vitesse de plus à son vélo, mais il est. Sans prendre de risque, il fait partie, oui, des 10 meilleurs actuellement défenseurs de la ligue. Ce qui, pour un rookie, déjà extraordinaire. Ouais, des 10 meilleurs, mais là, c'est vraiment sans prendre de risque. Hein.
tu vas vachement.
Mais je pense qu'on peut mettre top 5 sans hésitation, Flo. Oui.
Je me demande s'il va pas terminer deuxième de ce vote, alors qu'il est. Enfin, quand j'entends les gens en parler, ça me semble fou.
Je pense
fou,
quand même que son statut de rookie va le pénaliser au niveau des votes. Et puis, on va pas se mentir, le niveau global défensif de son équipe, même si lui individuellement est top, élite, c'est pas le cas de son équipe.
Bah, quand il est sur le terrain, les Spurs ont la sixième meilleure défense de la ligue. L'équivalent de la sixième meilleure défense, quand il n'est pas sur le terrain, c'est la pire du pire défense de la ligue de plusieurs mètres. Ouais, quoi,
même si c'est un trophée individuel, on regarde toujours quand même du coin de l'œil un petit peu le résultat collectif. Et puis, comme en plus il est rookie, il en pâtit un peu. Ce serait clairement pas une surprise s'il a le titre non seulement une fois, mais même plusieurs fois dans les années à venir. Ça, c'est une évidence qu'on peut avoir une passation de pouvoir entre un Français et un Français, ce qui serait quand même extraordinaire. Faut se réjouir de cela. Moi, je vais même te dire, je suis en train de plus en plus de me penser s'il va pas faire partie d'un club restreint qui est être Deep Boy et MVP.
Alors, franchement,
et pourquoi pas la même saison.
Un objectif pour lui.
Giannis, Jordan et Olajuwon.
Mais je pense que ça l'est.
Ont fait la même saison, mais il peut rentrer dans ce cercle restreint.
Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, Charles, aussi sur les contres récupérés, là, il y a Benjamin Moubèche de Basket Session qui a écrit un très très bon papier là-dessus, qui montrait que Victor Wembanyama récupérait plus de 60% des contres qu'il effectuait.
Qui est absolument colossal. Mais c'est
ce qui est absolument dingue et ce qui paraît bête à faire. Mais
c'est presque des interceptions. Il a presque inventé un nouveau geste. C'est-à-dire qu'en fait, il met la main sur le ballon, il fait ça à moi. Sauf que tu fais ça quand le mec a le ballon entre les mains ou qu'il dribble. Lui, il le fait sur une séquence de contres à 2 mètres de hauteur. Même 2m30, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a une faculté. Quand tu contres en général, ça part souvent en touche, ou alors après dans une zone d'aléa, ou selon le coéquipier ou ton adversaire. Mais non, lui, je mets le ballon et hop, c'est à moi petit, quoi. C'est impressionnant.
Ouais, et les interceptions aussi, et je parle des interceptions sans aimer cette stat. Le nombre d'interceptions par match, je déteste cette statistique parce qu'elle ne dit elle ne dit quasiment rien de ce qu'est la défense. Ce que j'aime bien dans Victor, que ce soit contre interception et son impact sur la défense collective de son équipe, c'est la lecture du jeu qu'il a. C'est ça qui m'impressionne le plus. Et c'est ce que disent beaucoup d'ailleurs d'autres joueurs NBA et d'observateurs d'insiders. Ils disent qu'ils sont tous impressionnés sur la maturité de sa lecture du jeu. Comment il est capable de comprendre, alors que des fois les défenses essayent de se jouer de lui, de l'éloigner du panier, de faire en sorte qu'il ne soit qu'il soit perdu sur la couverture défensive. En fait, il réalise que c'est très difficile de lui faire perdre le nord, dirons-nous. Et qu'il a une intelligence de placement et de compréhension de ce que l'équipe adverse essaye de faire qui est vraiment peu commune pour un joueur de première année.
Oui,
et ça, c'est ce qui m'impressionne le plus.
Mais c'est là-dessus qu'il a le plus progressé depuis le début de la saison. Et moi, c'est clairement à ça que je pensais quand je te disais qu'on voyait d'un match à l'autre très nettement l'évolution. C'est que c'est fou à quelle vitesse il a compris les choses. C'est hallucinant. Enfin, vraiment, je suis... J'ai même pas les mots tellement il est monstrueux. Parce que oui, tu parlais d'effectivement ce geste où il est capable de récupérer le ballon après l'avoir contré. Avant l'arrivée de Wembanyama, les meilleurs contreurs, c'était il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, un article était sorti, je pense que c'était sur The Athletic, sur justement la capacité qu'avaient les meilleurs contreurs à réussir, en gros, à balancer le ballon sur une zone du parquet où il y avait le moins de danger immédiat. Mais là, on parle même plus de ça, on parle du mec, le mec récupère le ballon en contrant. Enfin, c'est incroyable, il est trop fort et oui, effectivement, il a les capacités pour être MVP et défenseur de l'année la même saison, pour intégrer ce club-là.
Et voir à plusieurs reprises,
Et ouais, et
j'ai envie
voir à
de
plusieurs
dire.
reprises.
Je sais pas combien de titres de défenseur de l'année il peut remporter, mais dans sa carrière,
Ouais, la
ça
longueur,
dépend
la
de la longueur de
santé,
sa
mais
carrière déjà.
il vient pas, surtout à cause des 65 matchs.
Ouais.
Mais ouais, c'est bien parti. Ouais, c'est. Je
Ouais,
vous dis,
aussi,
on
ouais.
peut avoir une passation l'année prochaine. Ce sera peut-être lui et pas Gobert. Il y en aurait une passation franco-française. Ça serait super. Mais même au niveau de ses adversaires, il y a une évolution. Hein. La dissuasion qu'il a sur un parquet. Qu'il a aujourd'hui, qu'il est en début de saison. Alors en début de saison, c'est normal. En plus, il était rookie, il n'était pas connu. Mais là, quand vous regardez un petit peu les matchs, on sent bien qu'il y en a plus d'un quand il passe sous la raquette, qu'il voit Victor à proximité. Il se dit finalement, je vais peut-être continuer à dribbler un petit peu et y aller un peu plus loin. C'est
Ah mais il y a un chiffre qui existe et c'est Cleaning the Glass, ils ont calculé, il y a 3,3% de tirs en moins pris sous le cercle par les adversaires des Spurs quand Victor est sur le terrain.
Et c'est un chiffre qui va croître avec les années, ça.
Complètement, ouais. En fait, sa dissuasion. Il y a quelques joueurs qui ont essayé d'aller tester le gars au début de la saison. Maintenant, ils font plus ça, hein. Ils sont pas fous.
Alors, si on pouvait être un peu pointilleux et un peu exigeant, ce serait gentil de sa part de laisser Rudy en gagner deux de plus, celui-là et un autre, comme ça, il en aura cinq, et ça serait un record. Qui nous appartiendra, qui appartiendra à un joueur français, mais parce que oui, voilà, on a aussi Rudy Gobert qui va être meilleur défenseur cette saison, je pense qu'aujourd'hui plus personne n'en doute, et qui est en train lui aussi d'écrire l'histoire.
Complètement, ouais. Et qui continue d'être critiqué
Parce qu'il faut le dire,
en
parce que.
long, en large et en travers
Ouais.
par toute une partie des fans.
Parce que Wembanyama est tellement phénoménal qu'il éclipse un peu les autres, mais il faut, enfin là, Gobert, il va gagner son quatrième titre de meilleur défenseur de l'année, c'est phénoménal. Il va rejoindre au palmarès des joueurs qui sont légendaires. Enfin, c'est.
Et surtout après une saison, la saison dernière, où il a été, j'ai rarement vu un abattage aussi. C'est incroyable sur un joueur pour dire à quel point il pue, à quel point c'est pas bon, à quel point l'équipe qui l'a transféré a fait une erreur et ainsi de suite. Je vais dire, c'était un acharnement bientôt quoi contre lui.
Ouais, bah c'est une cible facile, Rudy.
Et là aujourd'hui, bon bah
Ah bah c'est
il en
sûr
attend
que
moins quoi.
rejoindre le club fermé, ce qu'il fera sans doute cet été, de Mutombo et Wallace Ben, c'est pas mal pour le titre de DPOY.
Tu m'étonnes. C'est dingue, c'est dingue. C'est fou, je trouve que c'est tellement minimisé la
C'est
carrière que
clair.
Rudy Gobert est en train de faire en NBA, c'est fou.
J'espère qu'un jour elle sera prise au sérieux, sa carrière. Qu'on posera des yeux vraiment critiques sur ce qu'il a fait, quoi. Parce que ça a pas l'air de se passer maintenant, mais.
Oui,
Non,
le
non, pour
temps
l'instant
effacera
pas.
un petit peu les critiques. Ce sera, enfin, pour lui comme pour les autres joueurs, c'est toujours un peu comme ça. Donc, il y aura une hagiographie qui sera faite sans aucun doute.
Oui,
Ça
c'est
me.
ça. À la fin, seuls resteront
Oui.
les titres et les records,
Ouais.
et lui, il a ce
Tout à
qu'il
fait.
faut à ce niveau-là.
Tout à fait. On va terminer ce podcast en parlant de LeBron James. C'était
Qui?
impossible de ne pas parler de ça. LeBron a dépassé
Un
la barre des
rookie?
40 000 points en carrière samedi dernier face aux Nuggets. Alors, personnellement, je suis très content que le match n'ait pas été interrompu au moment où il a passé les 40 000 points. J'ai eu peur de ça. Très franchement, vous m'auriez entendu parler de ça aujourd'hui et crier au scandale, quoi.
Non, ça te ressemble pas.
Ça m'aurait saoulé, en
Ça
tout
m'aurait
cas.
pas choqué.
Moi, ça me gave. Déjà, ça m'avait gavé la mise en scène où il avait passé Kareem Abdul-Jabbar. Alors, voilà, je suis peut-être vieux et aigri, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Non, t'es pas vieux et gris, t'es juste un hater de LeBron, c'est pas grave.
Ah, oh, ça
Et
va.
des Lakers.
Juste, non, mais c'est. Ah, oh, mais non, 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 arrêtez,
Surtout
arrêtez.
des Lakers.
Oh là là, ok. On est parti comme ça. Justement, enfin, je suis celui qui dit il faut pas bouder son plaisir devant les gloires NBA qui sont proches de la fin de carrière. Moi, personnellement, J'aime regarder LeBron James jouer au basket sur un terrain. J'aime regarder le voir avec les Lakers, sa science du jeu, sa science de la, son basketball IQ, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, je me suis senti assez indifférent à cette cumulation de points, de chiffres, et je voulais que vous m'aidiez un petit peu à m'expliquer pourquoi je ressens ça, à part le fait que ce que vous venez de dire, que je suis soi-disant un LeBron hater.
Voilà.
Est-ce que
en même temps, voilà, t'as tout dit, t'as sorti les seuls arguments. Alors, après, on va pas mentir non plus.
Alors, vous qui n'êtes pas touché par le virus du LeBron hating, ça vous fait quoi de voir ce joueur passer la barre des 40?
La difficulté de ce record, en fait, c'est que on se rend pas compte de ce que c'est 40 000 points. C'est tellement grand, tellement. Alors, on sait que c'est beaucoup, mais c'est difficile de s'en rendre compte. C'est parce que ça a été fait sur toute une carrière. Donc, c'est le travail de c'est 20 ans de carrière. Donc, c'est pour ça que ça paraît tellement gigantesque qu'on a du mal en fait à le savourer d'une certaine manière parce que ça représente tellement, on n'arrive pas, tu sais, c'est comme quand on dit, je sais pas, telle société gagne 100 milliards de dollars, mais en fait 100 milliards de dollars, c'est tellement grandiloquent que tu n'arrives même plus à imaginer ce que c'est. C'est peut-être pour ça aussi que voilà, on s'extasie peut-être un peu moins sur ce record. En fait, c'est surtout un record qui est, forcément, on est très respectueux, mais de toute façon, LeBron James n'avait pas besoin de ça pour qu'on respecte, bon, à part pour toi, mais on respectait déjà toute sa carrière, mais donc on n'avait pas besoin de ça, en fait, voilà, c'est ça, c'est que, comme je disais ailleurs, c'est actuellement, il est un petit peu rentier de sa carrière, c'est-à-dire qu'il bat de nombreux records à droite à gauche, qui sont des records liés à sa longévité, et il faut le faire, hein, c'est très dur de faire 20 ans NBA, 20 ans et plus, mais voilà, c'est en fait c'est pas ce match-là, c'est pas ce panier-là, c'est l'ensemble qui fait les 40 000 points bien sûr. Et c'est tellement, il a tellement fait de choses grandioses en fait, on n'est pas blasé, mais c'est entre guillemets une de plus, même si celle-là est historique et colossale. C'est une énième ligne dans un livre qui est déjà, enfin c'est même plus un livre, c'est toute une librairie entière. Donc voilà, c'est peut-être ça. En plus, c'est un record auquel on n'est pas habitué. On voit parfois des records de matchs ou des records de 3 points pris en un carton ou en une mi-temps, etc. Là, c'est un nombre de points sur une carrière. C'est un travail colossal. C'est 20 ans de travail, 20 ans à bosser, 20 ans à travailler son corps aussi, l'entretien de son corps. Pouvoir encore, au bout de 20 ans, avoir ce niveau-là, 39 ans, être joueur NBA, même être titulaire NBA, c'est colossal. C'est tellement grand, en fait, qu'on a du mal à... On reste sans voix, en fait. C'est pas qu'on est impressionné, c'est qu'on reste sans voix.
Charlie, cette barre des 40 000.
Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. On reste un peu sans voix. En fait, c'est les résultats d'une carrière invraisemblable. C'est juste des témoins de la grandeur de sa carrière. Les chiffres et les records qui s'accumulent peuvent paraître insensés tellement les chiffres nous font perdre le sens de la réalité. Mais ça, pourtant, ça a du sens en fait. C'est quand même. Enfin, moi, j'ai 35 ans. Ce mec-là, il est arrivé dans la ligue. J'en avais 15. Ça fait 20 ans qu'il est là. 20 ans qu'il est au top niveau. Depuis sa saison rookie, ce mec n'a pas fait une seule saison sous les 25 points de moyenne. Il est d'une régularité qui est invraisemblable. Et il n'y a pas de hasard. C'est le résultat d'un joueur qui, certes, avait de base un talent fou, mais c'est aussi et surtout le résultat d'une éthique de travail irréprochable. La vie de ce mec, elle est dédiée à la performance et au basket. Et c'est vrai qu'en tant que fan de NBA, moi j'ai beaucoup de mal à pas trouver ça admirable. Et pourtant, moi je reviens de loin, parce que tu dis qu'on n'est pas touché par le virus des haters de LeBron. Moi, de base, je suis un hater de LeBron. J'ai détesté son move de rejoindre le Heat de D-Wade. J'ai applaudi les titres de Dallas et des Spurs en 2011 et 2014. Mais avec le temps, avec le titre des Cavs, j'ai fini par m'incliner devant l'immensité de sa carrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'en suis à un stade en fait où aujourd'hui, LeBron, je suis juste chanceux, enfin je m'estime juste chanceux d'avoir eu la chance de vivre l'intégralité de sa carrière en tant que spectateur, parce que j'ai pas pu vivre celle de Jordan. Je suis pas du tout là pour faire des comparaisons de Jordan LeBron, pour dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, je m'en fous complètement, c'est pas la question. Mais c'est le mec qui aura marqué ma génération. Et aujourd'hui, c'est record. Effectivement, les chiffres sont tellement phénoménaux qu'ils nous font perdre un peu. On a un peu du mal à en saisir la substance. Mais c'est juste des témoins d'une carrière absolument phénoménale, phénoménale.
Moi, je suis plus sensible à ce qui se passe sur un terrain que à la ligne qui fait les totaux de points, de passes, de ci, de ça. Je suis plus sensible à des moments marquants d'une carrière. Et Dieu sait que la carrière de LeBron James est remplie de moments marquants.
Ouais.
Tu parles de son titre avec les Cavaliers en 2016. Difficile de faire plus marquant que ça sur les 30 dernières années, tu vois, clairement. Mais cette logique des chiffres qui s'accumulent, moi, ça me fascine pas, en fait. Voilà. Très clairement. Et je comprends que les gens, ça puisse les... Voilà, je comprends bien que c'est un témoignage d'excellence et de longévité, mais voilà. Je suis pas transporté par ça.
Tu as raison, en fait.
Très sincèrement.
C'est pas ça qu'on retiendra de lui. En tout cas, dans nos souvenirs, c'est-à-dire qu'on retiendra d'un point de vue un peu Wikipédia, on va dire, on retiendra ça. Mais c'est vrai que c'est pas, quand on nous demandera de ressortir une image, c'est pas le shoot où il met son 40 millième point qu'on retiendra. Il y a d'autres images qu'on aura beaucoup plus, des dunks, des contres ou des célébrations de titres. Ça nous a marqué. Ça, on le mettra avant tout en avant quand il prendra sa retraite. C'est vrai que ce panier-là, c'est pas ce qu'on mettra le plus en avant parce que c'est pas le plus marquant.
C'est parce qu'on a vécu sa carrière qu'on peut dire ça. Tu vois, les générations futures qui vont découvrir la NBA dans les deux années 2030, 2040, 2050, etc., elles découvriront LeBron aussi via ces lignes de records.
À moins qu'il continue, hein.
Ah non, enfin, oui. Alors, jusqu'à 2040, franchement, là, faudrait...
Steve LeBron. Je pensais que c'était déjà le cas, moi. Dernière question, elle est plus orientée pour Charlie, qui est le fan des Lakers. LeBron a une player option l'an prochain, à 51 millions de dollars. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur le fait que potentiellement, il va chercher à signer un nouveau contrat.
Trois ans.
Je crois que c'est 60 millions la saison, c'est ça qu'il veut ?
Oui.
C'est ça, hein ?
Oui. Windhorst a parlé de 60 millions à 42 ans. Ouais.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu une... Ça m'a fait un peu penser à la jurisprudence Kobe Bryant en 2013, qui avait signé son contrat, qui avait été critiqué par toute une partie des observateurs NBA. Lui avait dit, je ne vois pas pourquoi je prendrais une réduction alors que j'ai construit ce club largement pendant l'ensemble de ma carrière. Je me souviens qu'on avait dit aussi que c'était une question d'image pour les Lakers, une image de marque, dire regardez, on prend soin de nos superstars ici, on les laisse pas partir pour rien et ainsi de suite. Moi, quand j'y pense, je sais pas si ça me fait tant que ça peur pour les Lakers. Alors, moi, je vois ça si tu parles d'un pur point de vue business, et quand tu vois le niveau de LeBron aujourd'hui, je me dis franchement, ça tient la route. Parce que tu continues à devenir une franchise dont tout le monde va parler tout le temps. Les droits télé vont s'arracher, les maillots vont s'arracher. Enfin, d'un point de vue business, tu gagnes sur toute la ligne parce que tu as la légende ultime de cette ligue dans ton équipe. Et s'il est encore assez bon comme il l'est aujourd'hui, je vois pas pourquoi il serait pas compétitif, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Charlie ? Ça te désole qu'il souhaite rester ou pas ?
Non, c'est, en fait, déjà, se projeter sur quel sera son niveau de jeu dans 3 ans, je trouve que c'est extrêmement compliqué. D'abord parce que on peut pas savoir, en fait, on n'en a pas. On n'a pas d'éléments de comparaison. C'est trop difficile aujourd'hui de dire que LeBron à 42 ans serait aussi fort que LeBron à 39 ans.
Au-delà de son niveau de jeu, qu'est-ce que tu penses de la pure décision de le re-signer ?
Je pense que Anthony Davis plus LeBron de 42 ans qui pèse 120 millions de dollars dans le cap, c'est trop. Voilà, je pense ça. J'avoue que moi, ma première réaction, mais c'est une réaction de traumatisé, hein, c'est un truc qui m'a marqué, c'est me revient toujours en mémoire la dernière saison de Kobe où la franchise a sacrifié absolument toute ambition sportive pour lui offrir une tournée d'adieu avec des caméras omniprésentes qui suivaient l'équipe partout, qui t'a crispé les autres joueurs, le staff.
J'allais t'en parler. Justement.
Moi, j'ai pas envie de revivre ça. Franchement, c'est une des saisons les plus pénibles que j'ai vécues en tant que fan NBA. Ça m'a rendu fou. Et c'est une perspective que j'ai pas du tout envie de revivre. Donc j'avoue que si LeBron demain re-signe un contrat de 3 ans, il y a cette histoire-là qui m'inquiète. Il y a vraiment ce truc-là. Maintenant, ça ne m'étonnerait pas effectivement que ça arrive pour tous les éléments que t'as dit. Effectivement, pour les Lakers, bah, conserver LeBron tant que LeBron sera là, c'est hyper important. C'est un symbole qui est monstrueux économiquement. Ça change tout. Mais sportivement, je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire. Maintenant, on sait très bien que les Lakers, c'est une franchise qui ne résonne pas du tout que en termes sportifs, loin de là. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça arrive, mais bon, en tant que fan, je ne suis pas très chaud.
Avant de laisser la parole à Flo sur cette question, est-ce que tu penses, Charlie, qu'il y aura une retraite plutôt à la Kobe ou plutôt à la Duncan concernant LeBron James? Tu penses que LeBron James, un jour, il va terminer une saison, puis
jamais de la vie.
On n'entendra plus parler de lui?
Non, c'est impossible. Ça, je n'y crois pas du tout une seule seconde. C'est un businessman sans pareil. Rien ne compte plus pour lui que sa, entre guillemets, legacy qu'on pourrait sous-titrer business. Mais donc, non, je
franchement, si je me retape une saison comme ça, je vais faire une overdose, quoi, clairement. Cette dernière saison de Kobe Bryant, je suis désolé, mais...
Non, mais après...
Ça a été une purge pas possible.
Mais dans le cas de LeBron, ça sera pas aussi, entre guillemets, dramatique, parce que...
Le niveau est pas le même.
Ouais, enfin, le niveau est pas le même.
On sait rien, mais...
Kobe avait tellement trinqué physiquement, il avait tellement, tellement souffert dans la chair pendant tout au long de sa carrière. C'est pas le cas de LeBron. J'ai aucun doute que si demain, on se tape un espèce de circus... tournée d'adieu de LeBron James pendant toute une saison, le et niveau ne sera pas aussi catastrophique.
Ça te fait pas rire quand LeBron laisse entendre que potentiellement il pourrait disparaître du jour au lendemain dans le coucher de soleil?
Si, ça me fait rire.
Los Angeles.
Parce que je crois pas que qui que ce soit puisse y croire. À moins que je me trompe, hein, mais.
Non, mais je vois même pas pourquoi il le dit, en fait. Enfin, personne n'y croit. Enfin, bref. Flo, qu'est-ce que t'en penses, toi?
D'une éventuelle prolongation.
Ouais, prolongation, retraite de LeBron, tout ça, comment tu vois les choses se développer?
Déjà, la grande différence, c'est que quand Kobe avait signé son dernier contrat avec les Lakers, il avait déjà eu des blessures très graves, contrairement à LeBron qui, pour l'instant, est quand même en très bonne santé. Il a jamais eu de blessures très très graves,
non.
Comme l'avait eu Kobe. Kobe avait déjà eu le tendon. Et ensuite, il avait re-signé son contrat, son dernier contrat. Donc, le contexte n'est pas tout à fait le même, parce que donc c'est un peu moins sportivement, c'est peut-être un peu moins risqué. Maintenant, de toute façon, il n'y a aucun GM au monde qui va refuser de re-signer LeBron. Celui-là, il n'est pas encore né, GM, et s'il veut le max, ils lui donneront le max. C'est voilà, tu peux pas dire non à LeBron James, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc de toute façon, s'il veut refaire 3 ans à 60 millions, il refera 3 ans à 60 millions. Donc les Lakers là-dessus ont un peu les mains liées. Mais de toute façon, alors ce sera peut-être excessif, il est quand même encore très bon.
Oui.
C'est l'avantage aussi, c'est que la dernière saison de Kobe, sportivement, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était déjà quand même un peu plus compliqué. Alors que si c'est l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est plus compliqué. Mais LeBron, pour l'instant, est encore très efficace. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose. Après, que veux-tu, il finira où il voudra, quand il voudra, pour reprendre un petit peu du jeu d'assin.
Ouais. Il est très efficace, mais son équipe est quand même 10e. À la limite du play-in, quoi.
Ah oui.
c'est quand même une sacrée réalité, les gars. Enfin,
est-il le seul fautif? Je sais pas.
Et c'est pas une question d'être fautif ou pas fautif. C'est juste que ça fait maintenant 2 saisons consécutives où les Lakers sont là à batailler pour juste mettre un pied en play-off. Et l'an dernier, ils l'ont pas fait à moitié pour le coup. Ils ont réussi à se qualifier au play-in et ils sont allés jusqu'en finale de conférence. Ils ont marché sur.
Et oui, mais tu vois, s'ils refont le même parcours cette saison, qu'est-ce que tu vois, il y aura pas grand-chose à redire en fait sur le niveau
de LeBron
et sur sa capacité à emmener son équipe loin.
C'est sûr.
Le truc, c'est que c'est vrai que ce soit LeBron et a fortiori aux Lakers, c'est vrai que quand ils ratent les playoffs, c'est un petit peu un événement quand même, parce que les Lakers font partie des équipes que tout le monde veut voir tous les ans en playoffs. Et LeBron, on s'habitue à ce qu'ils soient en playoff, mais en même temps, on s'habitue aussi à ce qu'il n'y soit plus depuis qu'il est aux Lakers. Il a certes gagné un titre une fois, mais depuis, les résultats sont un peu moribonds, mais on a l'impression qu'il est dans une sorte de départ progressif, en fait. On a totalement intégré l'idée qu'il va progressivement quitter la NBA aux Lakers. Donc, on s'attend aussi à ce que les résultats soient un peu moins performants. Et puis, on attend aussi à ce que, voilà, Davis soit peut-être autre chose qu'un lieutenant ou qu'il ne relève, parce que c'est Austin Reaves.
J'ai l'impression que ce train-là, il est arrivé à la gare depuis
Ouais,
longtemps.
j'espère que t'es patient si si t'attends
Hein.
encore ça. Hein.
J'ai l'impression
je pense que tout
que
le monde est un peu résigné,
l'histoire est un peu bouclée déjà, non? Je
Ah
sais
mais,
pas.
il y a un truc, c'est
Ou
que.
le rêve, c'est qu'il y ait une troisième signature hors du commun, mais bon.
Russell Westbrook. Non, pardon,
Ouais.
Non, mais il y a un truc qui est clair, c'est que LeBron ne re-signera pas 3 ans sans un plan, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il re-signe 3 ans, c'est que soit il croit en sa capacité à aller chercher des titres
Il
encore.
bougera jamais de Los Angeles.
Oui, non, non, mais ce que je veux
Non, il
dire, en fait,
bougera plus.
c'est que tu vois, soit il a des records en vue, soit il estime qu'à Los Angeles, avec les Lakers, il est encore capable d'aller gagner des titres. Il se contentera pas, si tu veux, de re-signer 3 ans si l'idée, c'est juste de finir entre la 8e et la 10e place chaque saison et de croiser les doigts pour passer un ou deux tours de playoff. Ça, j'y crois pas.
Non, mais ce sera pour ses records individuels.
Oui, c'est ça,
Moi, je pense que
exactement.
pour l'instant, il joue un peu une carte. En fait, malheureusement, d'une certaine manière, le paradoxe, c'est le fait d'avoir gagné un titre très rapidement avec les Lakers.
Ça lui
Je
a
pense que
ôté
du
de.
coup, il ne peut se concentrer que sur sa carrière individuelle et moins collective. Il
Ouais.
n'aurait pas gagné de titre avec les Lakers, on lui aurait toujours reproché ça. Il l'a gagné tout de suite. Tant mieux. Et d'une certaine manière, c'est presque une mauvaise nouvelle pour les Lakers. Parce que du coup, je pense que maintenant, il est plus intéressé par terminer ses records perso que gagner un énième titre dont il n'a pas forcément besoin aux Lakers. Et je pense que c'est un petit peu le paradoxe finalement, c'est que le fait d'avoir gagné trop vite pour les Lakers, c'est finalement pas une bonne nouvelle pour les Lakers. Parce que je pense que maintenant, ce qu'il veut, c'est être parmi les joueurs qui ont augmenté le nombre de matchs joués pour passer devant Stockton, Nowitzki et peut-être Carter.
Ouais, s'il veut passer devant Stockton, où?
Le nombre de matchs joués en saison régulière.
Ah oui, je pensais que tu parlais à la passe, j'allais dire, dis donc,
Non, à
Stockton,
la
il
passe, là, va falloir quand même qu'il.
Oh là, il va falloir se remuer, là.
va falloir tourner à des 20 passes décisives par match, là.
Je
Il va
pense que ça, c'est
falloir
l'un
se
des records
dépêcher,
qui
moi.
restera le plus longtemps en NBA.
Ah oui, c'est
Mais
vrai.
Stockton, il
C'est
est
sûr.
passé en nombre de matchs joués en saison régulière, il est sixième. Il est pas si loin que ça de Stockton et Nowitzki. Je pense qu'il a envie un petit peu de les passer. Même peut-être Carter qui est troisième. On oublie trop souvent que Carter est troisième. Mais soit en passant.
Ouais.
Mais je pense que voilà, il a envie de cocher des cases un petit peu comme dans un jeu à cocher. Il veut faire des records individuels. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Collectivement, je pense qu'il a lui-même conscience qu'il est dans une équipe qui lui donnera pas le titre cette saison. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment pas l'objectif, il l'a toujours en tête, mais je suis pas sûr qu'il croit vraiment à un titre l'année prochaine ou même dans 2 ans. Ou alors avec un trade qui serait Davis partirait contre quelqu'un d'autre. Davis contre Giannis ou une connerie comme ça, je dis vraiment totalement au hasard,
Ouais.
hein, mais ou un gros trade comme ça, où finalement il y a plus de chances que Davis parte avant que les Browns partent en retraite.
Ouais, je sais
Si
pas.
l'un des deux événements devait arriver, je parierais plus sur un trade de Davis que.
Ah bah de toute façon, je pense que les Lakers, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, économiquement parlant, ils ont aucun intérêt à voir partir LeBron James. C'est une machine à cash, le gars.
Oui, puis tu peux pas prendre la décision de le faire. Enfin, tu t'imagines, le GM qui fait ça, il a pas d'autre obligation que de gagner le titre l'année où il fait ça. Sinon, il se fait
Oui, mais
discipliner.
le problème, c'est que dans cette équation, je trouve que des fois, on a trop de considération pour la partie sportive, alors que aujourd'hui, à ce stade de sa carrière, LeBron, il y a le côté business qui est quand même hyper
Sûr.
hyper important, quoi.
Iconique, légendaire, il vend des maillots à gogo, il est la star la plus connue. Quand elle est dans ta franchise,
Mais
tu
c'est la
la
tête de
gardes.
gond c'est la tête de gondole de l'NBA, tout simplement. Je veux dire, et le fait qu'il soit aux Lakers, c'est excessivement important. Et d'ailleurs, c'est, je pense, une question qui doit hanter de nombreuses personnes dans les locaux de la NBA, c'est comment on remplace ce gars-là à la tête de la ligue. Le jour où il part, comment on fait?
Bon, tu peux pas.
Non, tu peux pas, mais
Pas le remplacer, mais.
il faut le préparer. Il faut préparer le comment dire, à encaisser le choc.
Ah bah il y avait eu quand Jordan avait pris sa première retraite ou même la seconde, il y avait eu un petit creux, voilà, parce qu'il faut retrouver une star, mais une star qui aille bien au-delà de la ligue. C'est
Et
ça le problème, c'est-à-dire qu'il soit
d'ailleurs,
mondialement connu, même pour des gens qui n'aiment pas le basket.
ouais, et puis qu'il soit pas dans un tout petit marché, quoi, parce que ça.
ouais. Et je me demande à quel point la prolongation de la carrière de LeBron James pèse, par exemple, dans les négociations avec les médias, dans le nouveau contrat que souhaite signer la NBA. Ils savent très bien qu'ils doivent frapper un grand coup sur ce contrat-là. Et ensuite, ils auront le temps du contrat, ils auront tant d'années pour essayer de bâtir la suite de LeBron, quoi.
Et puis,
Et ça va pas être simple.
non, puis ce sera un événement, son dernier match, ça sera un événement. Alors, s'il annonce avant, on pourra préparer ça et faire un gros événement télévisuel et médiatique. Donc, c'est sûr que dans la négociation du contrat, c'est sûr que s'il avait arrêté cet été, ça aurait eu une petite influence sur le prix du contrat. Alors, ça n'aurait pas changé tout au tout, mais c'est clairement un petit facteur, un petit bonus. Ça,
Moi,
c'est une évidence.
je propose que pour son dernier match, on interrompe le match à chaque fois qu'il met un panier, juste pour le plaisir de Josh.
Le match va durer 10 heures.
C'est clair.
Déjà, on va se taper 82 matchs d'adieu, donc avec des vidéos à chaque fois, ça va être génial.
Non, ça va être horrible.
Ça va être trop bien, on va se régaler. Wouh! Messieurs, merci de m'avoir
Quel
accompagné pour ce podcast. Quel hater, tu changeras pas. Mais voilà, mais vous allez me faire passer pour un hater alors que je suis pas du tout un hater, ça va, j'ai des réserves, c'est tout. On a le droit d'avoir un avis
C'est une
critique.
manière très polie de dire que t'es un hater, effectivement.
J'ai le droit d'avoir un avis critique sur la question, je suis
Parce
désolé.
que juste, Davis, il a un long contrat encore, hein, le coco. C'est
Oh,
jusqu'en
que
2027, hein.
oui.
Ah mais
Soit
oui, mais il a signé.
2027-2028,
Avec.
ouais.
Ouais. Enfin, ouais, 27-28, c'est avec une option, mais qui prendra sans doute, à mon avis.
Je suis même pas
Donc.
sûr, hein, qu'il y ait une option sur le contrat d'Anthony Davis. Je crois que il est full, hein.
Je crois que c'est une player option pour 27-28 quand même.
Alors je vais vous dire ça tout de suite. Anthony Davis, il n'y a pas d'option sur sa prolongation, non.
Ah non, non, hein, je te dis,
Non?
c'est 70 000
Non.
plein pot.
70 000 plein pot, ni de team option, ni de player option. Il avait une player option sur le contrat qu'il avait là, qui était donc
Pour la
la
saison
saison
prochaine.
prochaine, une player option à 43 millions. Et l'année, enfin 2025-2026 jusqu'à 2027-2028, il gagnera 60,5 millions, 65,3 et 70,2 quasiment.
Ouais, un tiers du salary cap, un petit peu plus.
Miam
Ah bah lui et
miam!
les Browns, c'est 60% du salary cap,
Ah
hein.
bah ouais, ils sont bien, ouais.
Mais c'est
Même
pour ça que je
plus
suis assez
70.
d'accord. Je suis assez d'accord sur ce que Florent disait juste avant. Sur, je pense qu'un trade d'Anthony Davis dans les 2-3 saisons est pas du tout impossible si LeBron prolonge.
Je vois même pas comment c'est possible. C'est lui qui a fait des pieds et des mains pour le faire venir. Ils sont là à jouer les super poteaux en permanence.
Oh
Je
là,
sais
mais
pas.
ça change très
Ça
vite, quoi.
n'a qu'un temps, oui, ça se change vite. Et puis,
Franchement, si le Brown manigance pour le faire partir en disant ouais, carrément, allez-y,
bah,
faites le transfert.
si c'est pour un très gros nom,
Bah c'est ça, c'est la NBA.
c'est
Si tu ramènes un Giannis
chaud.
à la place, personne va rien dire.
C'est chaud. On s'est tellement habitué que LeBron il fasse son petit marché là,
Mais
c'est.
non, c'est pas juste les bronnes. On s'est habitué au fait qu'en NBA ça fonctionne comme ça et c'est tout.
Petit marché.
Arrête, regarde, c'est comme les Boston qui a aucun souci à se débarrasser de Smart cet été pour récupérer mieux. C'est pas juste les bronnes, c'est la
Ah mais
NBA.
je dis pas, la NBA est devenue comme ça, ouais.
Ah
C'est
ouais.
devenu un truc très individuel où effectivement, mais
Et on
bon
pardonne
après.
tout à ceux qui gagnent. Par contre, si tu gagnes pas.
Voilà. Moi je reste un nostalgique
Allez, Victor aux Lakers, c'est parti.
Allez, il est temps d'arrêter tout ça. Messieurs, merci beaucoup. À la prochaine.
À la prochaine. Merci à vous
Merci
les gars.
beaucoup.
Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.